Vous connaissez bien sûr la série Friends. Eh bien, figurez-vous qu'une réplique du QG des personnages de Friends, ainsi qu'une boutique éphémère, ouvrira ses portes le 4 août prochain. Ce sera lundi prochain au centre commercial Azrieli-Sarona pendant 2 à 3 mois. Cette boutique éphémère, selon l'affluence, ouvrira ses portes. Alors, on va revenir sur l'impact et le retentissement qu'a eu la sitcom Friends sur le paysage audiovisuel mondial, et ce en compagnie d'Alain Carazé, il est journaliste, spécialiste des séries télé. Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste des séries télé. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Alors, on aimerait parler aujourd'hui avec vous de la série Friends, hein, parce que il y a un bar aujourd'hui, un bar éphémère qui s'ouvre à Tel Aviv. Et du coup, c'est une bonne opportunité de revenir sur cette série qui fait vraiment partie de la pop culture mondiale, hein. Donc, le dernier épisode de la série, il a été diffusé en 2004, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, mais ça reste quand même très populaire aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on explique ce succès planétaire? Est-ce qu'il y a des pays où la série a plus marché que d'autres? Pourquoi? Enfin, est-ce que vous pouvez nous...
Oui, vous vous rendez compte quand même, 20 ans, 2004, et on ouvre un bar de nos jours à Tel Aviv. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Généralement, les séries, c'est un peu fugace, ça passe, on les oublie, c'est remplacé par d'autres. Il y a pratiquement 500 nouvelles saisons par an aux États-Unis, donc qui nous arrivent aussi dans la plupart des pays du monde. Donc voilà, et de façon assez inexplicable, enfin bon, il y a quand même des raisons, Friends reste extrêmement présent à travers plusieurs générations. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'écriture, la deuxième raison, c'est l'écriture, la troisième raison, c'est l'écriture. Je plaisante à peine en disant ça. On a eu pendant longtemps en France, Par exemple, la fausse idée que pour faire une sitcom, il suffisait d'avoir quelques acteurs plutôt beaux gosses et une mise en scène rigolote avec des rires enregistrés derrière. Rien n'est plus faux. Friends en est la preuve. Une comédie, c'est encore plus compliqué qu'une série policière, qu'une série médicale ou des choses comme ça. On est obligé de se reposer sur l'écriture et l'alchimie entre les personnages. Ça, c'est très important. Réunir les bons acteurs qui vont avoir le bon timing en ce qui concerne la comédie, qui vont réagir les uns les autres au bon moment, avec les bons dialogues, avec les bonnes phrases, avec l'humour qui tue, etc. Et ça, c'est relativement rare qu'il y ait un casting aussi nickel, avec des acteurs qui s'entendent super bien, et des actrices qui collent très bien à leur personnage, et qui font que quelque part, ça roule tout seul, et qu'on peut leur faire faire des choses assez extrêmes, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le réalisateur James Burroughs. On peut aller jusqu'au bout de ce qu'on peut leur demander, y compris avec de la comédie un petit peu outrancière, y compris avec de la comédie physique. Ils n'auront pas peur de se planter parce que le réalisateur, parce que les gens sont là, parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. C'est super important. Alors, pourquoi Friends? C'est vrai que des sitcoms, il y en a eu plein avant. La télévision moderne aux États-Unis est née quasiment avec les sitcoms. C'était I Love Lucy, c'était dans les années 50. Et c'était une femme qui était aux commandes de la sitcom. Donc, en effet, et le modèle de tournage des sitcoms a été inventé dans les années 60, donc dans les années 50, avec le multicaméra, avec le public sur les tréteaux, avec les acteurs qui tournent en face, scène par scène, devant le public. Donc, tout ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau avec Friends, c'est d'abord le rythme qui a été donné par les créateurs de la série, Marc Kaufman et David Crane, qui était un rythme, alors, c'est eux qui le disent, ultra caféiné, à savoir, ça n'arrête pas, c'est pas de longues scènes de dialogue, c'est vraiment des petites scènes très courtes, très très enchaînées les unes aux autres. Et ce qui a changé, c'est le fait qu'on vous présente 6 personnages qui n'ont qu'un référent adulte. Ils ont tous des trentenaires, ils démarrent tous dans la vie, ils ont tous les problèmes des trentenaires. Là, il n'y a pas de côté moral. Là, quelque part, ils sont livrés à eux-mêmes. Dès le premier épisode, on dit à Rachel, bienvenue dans le monde actuel, tu vas voir. C'est nul, tu vas adorer. C'est une ligne de dialogue. Donc, ça montre bien tout le poids de la sitcom. Il y a toute une catégorie de spectateurs à travers le monde, et principalement aux États-Unis, qui se sont retrouvés dans ces personnages extrêmes, un peu fous, mais quelque part extrêmement attachants et en quête d'authenticité les uns les autres, en quête d'amour, en quête de succès, de boulot, etc., de reconnaissance.
c'était la voix d'une génération entière, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 20 ans après, par exemple, on peut voir des enfants porter des t-shirts à l'effigie de certains personnages de 13. On peut voir derrière ça les parents qui ont grandi avec Friends, puisque ces enfants sont nés après la fin de la série.
C'est toujours un petit peu. Les six amis vivent dans un monde dans lequel il n'y a pas de politique, dans lequel il n'y a pas. Enfin, ils n'en parlent pas. C'est pas lié, il n'y a pas de lien avec une réalité politique, sociale ou quoi que ce soit. Ils vivent dans leur petit monde. Ils vivent dans le café, ils vivent dans l'appartement de Monica, ils vivent, voilà. Et c'est tout. Donc je pense que ça rentre bien conclu. Côté intemporel, la série, même si elle est la voix d'une génération, comme vous l'avez très bien dit, le côté intemporel de la série fait que elle a touché au-delà de ces 10 années dans lesquelles elle était à l'antenne. Alors, diffusion, multidiffusion, et ainsi de suite. Et c'est vrai que alors, c'est pas exceptionnel, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est rare. C'est relativement rare que, quelque part, en effet, une série perdure et que, à mon avis, soit toujours rediffusée, multidiffusée, restaurée en haute définition, dans lesquelles il y a du merchandising, des cafés qui se montent dans différents pays, etc., etc. C'est relativement rare. Il y a toujours des souvenirs un peu nostalgiques, mais avec Friends, c'est quasiment un souvenir. Enfin, je suis à peu près sûr que la plupart des gens qui regardent Friends de nos jours, ben, ils le regardent au premier degré, ils le regardent comme s'ils découvraient une nouvelle sitcom. Alors, ça n'a pas vraiment vieilli. Netflix aux États-Unis s'est quand même bagarré pour garder les 10 saisons de Friends dans son catalogue.
On a
Il y a The Big Bang Theory.
Ça a codifié un peu les sitcoms américaines aujourd'hui. Il y a des héritières, par exemple, par How I Met Your Mother, New Girl. Souvent, voilà, il y a 6 personnages maximum, des jeunes adultes, fin de la vingtaine, début de la trentaine, dans des grandes villes, avec un théâtre un peu intemporel. C'est l'un des ingrédients que vous avez mentionné. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces séries-là, elles ont égalé, l'impact que ça a eu Friends à l'époque?
Égalé, c'est difficile à voir. Friends est devenu quasiment mythique. Il y a eu quand même, au moment du lancement de la chaîne Max, HBO Max, enfin du streamer HBO Max, sa base, c'était « on va vous faire une réunion des acteurs de Friends ». Bon, ils l'ont pas fait à cause du Covid, ils l'ont fait un peu après. Mais enfin, ça a été quand même leur élément marketing crucial pour essayer que des gens s'abonnent au lancement de leur plateforme. Mais c'est vrai que par contre, si on se reporte un petit peu à l'époque dans laquelle Friends était diffusée, elle avait déjà une influence, mais c'était tous les sitcoms qui avaient une influence. On est dans les années 90, 2000, puisque Friends est de 1994 à 2004. Il y a toujours des sitcoms à la télévision américaine, mais par contre, à cause du succès de Friends, à cause du succès de Seinfeld en même temps, qui est radicalement différent, mais qui quelque part touche à un autre public, à un certain public, avec des dialogues tout aussi percutants, avec une recherche justement dans le scénario, dans les dialogues, etc. Il y a eu une espèce d'avalanche de sitcoms qui sont tombés dessus. Bref, c'est devenu le genre à la mode. Bon, effectivement, les grilles horaires de prime time de la télévision américaine n'étaient plus remplies comme ça, au détriment des séries d'1 heure, des séries dramatiques, des séries policières, des séries d'aventure, etc., etc. Donc, on a eu une espèce d'avalanche de sitcoms. Beaucoup n'étaient pas bien, beaucoup n'étaient pas aussi léchés que l'étaient Friends. Beaucoup n'étaient pas aussi soignés que les Friends, mais il y a une avalanche de sitcoms. Ça a permis de légitimiser le genre, qui, surtout dans d'autres pays, était un genre qui n'était pas encore très réputé.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire en fait. Avant Friends, les séries c'était quand même pas forcément très audible. On n'assumait pas forcément de regarder des séries. Après Friends, aujourd'hui, la série est rentrée dans une évolution du 7e art.
C'est une évolution du 8e art, l'art télévisuel. Pourrait toujours comparer la série au cinéma. Est-ce qu'on compare la BD à la littérature? Et pendant très longtemps en France, on a dit que les séries, c'est du sous-cinéma, qui était fait par des gens qui payaient leurs impôts en faisant de la série télé, parce que c'était du bas de gamme. C'est faux. Excusez-moi, il n'y a que dans certains pays, il n'y a qu'en France, où on pensait ça. Depuis les années 50, dans les pays anglo-saxons, la série télé, qu'elle soit série dramatique, qu'elle soit sitcom, n'importe quoi, a acquis ses lettres de noblesse. C'est vrai que ça a montré que c'était bien. D'un autre côté, si on veut être particulièrement objectif, la fin des années 90, donc l'époque Friends, est une époque où il y a eu Urgence, il y a eu NYPD Blue, Il y a eu Law & Order, à savoir New York District, qui continue encore d'être diffusé de nos jours et d'être produit de nos jours. Il y a eu X-Files. Il y a eu un renouveau, non seulement de la sitcom, mais aussi de la série dramatique, qui allait dans d'autres domaines, dans d'autres dimensions, qui pouvait repousser les limites. La création de chaînes payantes comme HBO, qui, elle, n'était absolument pas dépendante de la publicité, ni de la censure, ni quoi que ce soit. Et qui voulait se permettre de traiter blé si elle voulait faire des séries, et pas simplement diffuser du sport ou du cinéma, traiter de sujets que les autres ne traitaient pas. Les femmes de la quarantaine, les mafieux, etc., etc., sous un aspect complètement différent. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il y a eu une évolution. Il y a une évolution, mais l'évolution a lieu avant Friends déjà. Grosso modo, si on est arrivé à Friends, c'est parce qu'il y a eu 50 ans de séries avant. Et que petit à petit, les gens ont vu des Ma Sorcière Bien-Aimée, ils ont vu les Cosby Show, et puis quelque part, ils réclament du neuf, ils réclament du nouveau, donc il y a Friends. Et Friends, on le regarde, et vous avez tout à fait raison, sous un aspect qui n'est pas nostalgique. Alors que Ma Sorcière Bien-Aimée, on peut le regarder sous un aspect nostalgique.
Et que finalement, Friends, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas tant vieilli que ça. Merci beaucoup, Alain Carazé. C'est déjà la fin de notre petit entretien. Merci d'avoir bien voulu nous apporter votre éclairage d'expert à ce sujet. Je rappelle que vous êtes spécialiste des séries télé. À très bientôt.
À très bientôt et bon courage à vous.